Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Ah non, touche-moi pas. Casse-toi là. Merci.
Tu devrais avoir honte, peignard.
Dégage.
Pourri.
Tu l'avais jamais vu, toi?
Moi aussi.
Bon, bah voilà. Hein, bah, je pousse, tu vois, selon l'agriculture.
Je vous vois plus à la télé.
Ah oui, c'est pas pareil, hein.
Non, c'est pas pareil. Hein,
c'est mieux?
C'est mieux en vrai.
Ah, en vrai. Ouf. Allez, bon courage, ton enfant.
J'ai jamais vu Nicolas Sarkozy.
Ah bah oui, tu ne verras plus.
J'ai vu en télé.
Vous êtes des pantins de l'Europe.
Ah oui, oui, mais ça c'est facile.
Ah oui, c'est facile de venir par année comme ça.
Et j'ai une poule, ça vous fera votre heure du matin.
Je le prends parce qu'aujourd'hui c'est le ministère de l'Intérieur qui m'est fourni.
Vous êtes bien sur Radio Orient, coulisses politiques avec Henri Vernet. Bonjour Henri Vernet.
Bonjour.
Et ce que nous venons d'entendre, c'est bien entendu un florilège de moments qui ont marqué les différents salons de l'agriculture. Alors, le prochain se déroulera du 21 février au 1er mars prochain, du casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy à tu ne le reverras plus de François Hollande, en passant par le président Macron qui se voit offrir une poule. Ce salon, c'est bien entendu plus que le rendez-vous parisien des agriculteurs. Ce n'est pas seulement une vitrine du monde agricole, c'est aussi chaque année un révélateur, parfois brutal, de l'état du lien entre la classe politique et le pays réel. Au-delà des images, des poignées de main, des tensions, que dit ce rendez-vous de notre vie politique, de la manière dont les responsables publics parlent au territoire, gèrent la colère et tentent ou non de renouer la confiance? Alors, pour décrypter les enjeux politiques du Salon de l'Agriculture, nous ouvrons les coulisses avec vous, Henri Vernet, journaliste, fin observateur de la vie politique française, avec les regards croisés du politologue Roland Kayrol et du communicant Thierry Saucé. Nous analyserons ce moment dit de l'ensemble de la classe politique, ses stratégies, ses fragilités, ses lignes de fracture. Bonjour, je suis François-Xavier de Calonne, bienvenue dans Coulisses politiques avec Henri Vernet, journaliste, chroniqueur, je le rappelle. Les organisateurs de cette édition 2026 ont annoncé qu'il n'y aura aucun bovin cette année à cause de l'épidémie de dermatose nodulaire, une première depuis la création de ce rendez-vous annuel. Tout d'abord, Henri Vernet, est-ce que ce salon aura une tonalité particulière un mois avant les élections municipales, un peu plus d'un an avant la présidentielle, et dans ce contexte de crise pour les agriculteurs?
Oui, bien sûr, une tonalité forte, pour les deux raisons que vous avez évoquées, c'est qu'on est dans une période électorale, j'allais dire, incessante, à répétition, avec en effet ces municipales, et puis dans un an, la présidentielle, dont les élections municipales de mars sont clairement un test, non pas une répétition, mais enfin un test qui permettra de jauger l'état des forces et les espoirs de chacun. Donc oui, ça a une tonalité particulière, et puis surtout parce qu'il y a ce contexte de crise qui est extrême. Les éleveurs de bovins sortent à peine avec difficulté de l'épidémie de dermatose nodulaire qui a quand même provoqué des drames qu'on mesure toujours avec difficulté, c'est-à-dire des abattages entiers de troupeaux qui répondent à des exigences sanitaires mais qui sont extrêmement dures à vivre pour le monde paysan, pour les éleveurs, avec cette signature du Mercosur, donc c'est l'accord de libre-échange entre les pays européens et des pays d'Amérique latine qui est perçu vraiment comme, en France en tout cas, comme une menace pour l'agriculture nationale. Donc c'est cette double crise. Et puis de manière générale, une colère paysanne qui est là depuis des années face à ce qu'ils considèrent comme des normes insupportables qui les brident dans leur action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes agriculteur, on vous dit comment vous devez investir, quelle machine vous devez acheter, ce que vous pouvez planter ou pas comme semences. Vous avez les restrictions sur l'eau, l'utilisation de l'eau. Il y a tous les problèmes qui sont liés à la protection de l'environnement, problème pour les agriculteurs, mais qui sont une nécessité pour la vie ensemble. Par exemple, je vois tout récemment le projet de loi d'urgence là qui est en train de se dessiner, a un aspect sur la présence du loup.
Enfin, donc ce sera un rendez-vous plus difficile, avec plus de tension pour les personnalités politiques.
Oui, sans aucun doute. C'est de toute façon, c'est toujours un rendez-vous avec tension, au point d'ailleurs que pour la première fois à cette édition 2026, ce rendez-vous vigueur une charte de l'accueil des politiques. Alors, elle avait été testée il y a un an, mais cette charte, elle dit quoi ? Elle essaie de réglementer justement la présence des politiques, parce que, après tout le tableau que je viens de dessiner, il n'empêche que pour les politiques, c'est extrêmement symbolique, extrêmement important. Ce sont des images, donc on peut s'y faire huer, on l'a entendu tout à l'heure, je pense qu'on y reviendra dans le cours de l'émission, mais c'est le monde agricole qui est quand même extrêmement puissant dans l'imaginaire des Français, eh bien les politiques le veulent avec eux de toute façon. Donc oui, il y a cette tension particulière.
Il
risque des images désastreuses. Par exemple, Emmanuel Macron, le président actuel, il y a 2 ans, il s'était fait l'édition 2024, il s'était fait carrément huer, il s'était fait et carrément barrer l'entrée du salon. L'inauguration avait dû être retardée de quasiment 2 heures parce que les éleveurs, déjà d'ailleurs pour des raisons très similaires à la crise actuelle, hein, le poids des normes, la menace du Mercosur à leur endroit, etc. On était déjà en pleine crise et donc ils avaient manifesté leur mécontentement par ces huées, par cette cohue, par vraiment cette quasiment interdiction d'entrée. Néanmoins, Macron avait fini par y aller et à créer une espèce de débat. Mais il y a aussi des dérapages individuels. Hein, par exemple, dans une campagne, parce que vous avez raison de faire le lien entre un salon et une campagne, lors de l'élection de 2017, on se souvient d'un François Fillon qui s'était pris un œuf sur la tête. Évidemment, on l'entendait
ça,
d'ailleurs.
Ça, c'est fréquent, les œufs sur la tête lors du salon pour les politiques.
Mais bien sûr, parce que le monde paysan, il est, j'allais dire, de manière quasi chronique, en colère contre un pouvoir politique dont il estime qu'il ne les protège pas assez. C'est même pas qu'il ne les protège pas assez, c'est qu'il ne les comprend pas. En gros, c'est vraiment la France d'en haut contre la France d'en bas qui sera incarnée par les agriculteurs et surtout la France techno, hein, les technos qui prennent leurs décisions à Paris. Qu'est-ce qu'on risque ? Il y a aussi, vous l'avez passé dans la présentation, hein, Sarkozy, qui est en altercation avec un agriculteur et qui finit par lui dire « casse-toi, pauvre con ».
Ça aurait été un marqueur de son quinquennat.
Exactement, de son quinquennat. Ça a marqué le style Sarkozy. Mmh. Pour la petite histoire, d'ailleurs, donc j'étais au Parisien, moi je dirigeais la politique à ce moment-là au journal Le Parisien, et il se trouve que le surlendemain, on recevait Nicolas Sarkozy pour un entretien avec nos lecteurs, avec les lecteurs du journal. Et à ce moment-là, au cours de cet entretien, Sarkozy, on sentait qu'il n'était pas bien, il était un peu gêné par ça. Et il s'était non pas excusé, mais enfin, il avait regretté sa sortie parce que, comme vous l'avez dit, ça avait marqué son image.
Et pourtant, les politiques s'y précipitent à ce salon. Le politologue Roland Cayrol nous dit en quoi ce rendez-vous est un événement incontournable pour l'ensemble des responsables politiques.
Le salon de l'agriculture, ça a toujours été un événement marquant de la vie politique et sociale française, mais ça s'est affirmé avec les années et avec la montée en puissance de l'image des agriculteurs dans le pays. C'est sous Jacques Chirac qu'on a eu une progression très importante. On sait que Jacques Chirac était très attaché à l'agriculture, aux agriculteurs, qu'il aimait beaucoup le salon de l'agriculture. Il y a donc passé de nombreuses heures et ses successeurs en ont rajouté, si j'ose dire. C'est devenu une tradition de passer longtemps au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron a fini par y battre des records. Voilà, on sent qu'il faut montrer aux Français qu'on est bien dans ce fond de pays qu'est la France, qui aime manger, qui aime les produits, qui aime les animaux, qui aime les bovins en particulier, même si cette année, il ne doit pas y en avoir à cause des épidémies. Voilà, il y a une espèce de symbiose nationale qui se fait chaque année, et de plus en plus, autour de ce fameux salon.
Et cela permet de mieux connaître nos responsables politiques, les candidats à l'élection présidentielle ou les présidents en exercice. Qu'est-ce que cela nous dit sur eux, leur manière d'être lors de ce salon ?
Ça montre leur volonté d'être de plein pied avec la population française dans ce qu'elle a de juger sympathique, aimant ses agriculteurs, aimant ses produits. On va au salon de l'agriculture notamment pour manger et pour boire des produits bien français, et donc évidemment ça rejaillit, pense-t-on, sur la popularité des présidents de la République qui, à l'image de leurs concitoyens, vont comme ça se promener de stand en stand, goûter, dire combien c'est bon, manifester leur joie, leur satisfaction d'être au sein de ces produits français avec des producteurs français.
Voilà, et on le voit, bien entendu, hein, quand un homme politique prend du plaisir ou quand il n'en prend pas. Jacques Chirac, lui, en prenait beaucoup. Il y est même retourné après son dernier mandat. Pourquoi un secteur qui représente moins de 2% des actifs conserve-t-il ce pouvoir aussi fort, aussi symbolique dans la vie politique française?
Parce que je pense que chaque Français a une histoire avec... Alors, Roland Carrel l'a dit, il y a aussi cette idée de terroir. Hein, c'est la France un peu d'antan, la France immuable avec les paysages. Là, on a cité Chirac. Alors, c'est vrai, hein, Chirac, il avait fait quasiment profession de tâter le cul des vaches. C'était le Corrézien. Et chez lui, il y avait une sincérité qui était assez évidente. Mais regardez à gauche un Mitterrand aussi, François Mitterrand. Il avait cette culture, de là encore, hein, de la France. Avec ses paysages, avec ses paysans. Et vous avez raison. Alors pourquoi? Parce que oui, c'est ça. Ils sont quoi? Ils sont, je crois qu'il y a 400 000 exploitants agricoles en France. Et en effet, très, très peu dans la, comment dire, par rapport à la population active. Mais il y a donc, il y a cet imaginaire, il y a ces, comment dire, ces liens à la fois, cette image sociale, culturelle, qui est très forte, alors qui est en lien avec les politiques, dont les politiques ont besoin, et puis avec les Français. Et puis, il y a quand même aussi un aspect tout simplement très, très trivial, mais très économique, c'est qu'ils sont 400 000. Alors, à côté de ça, il y a une industrie alimentaire, agroalimentaire, qui, elle, est le premier employeur de France et qui emploie 500 000, qui représente 500 000 emplois dans le pays. Donc, c'est considérable. Mais si vous mettez tout cela bout à bout, bah, de quoi il s'agit? Il s'agit de nourrir les Français. Il s'agit de nourrir un pays. Et on voit bien, d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'il y a comme ça des heurts, que les agriculteurs font entendre leur colère, leurs revendications, bah c'est un argument qu'ils répètent à l'envi. Hein. Mais attendez, s'il n'y a pas de ruralité, il n'y a pas de paysannerie, s'il n'y a pas de production, s'il n'y a pas de production, eh ben, il y a un pays qui, à la fin, finit par mourir de faim.
Donc, je veux ça dire, c'est aussi bête que chacun d'entre nous.
Mais bien sûr, et donc ça, voilà, ça, c'est vrai que c'est extrêmement important. Donc, il y a tout ça. Et les Français, vraiment au sens large, hein, se reconnaissent dans ce monde-là. Bah, il suffit de voir le succès de ce salon. Chaque année, en gros, alors peut-être que ce sera un peu moins cette année parce qu'il n'y aura pas les bovins, encore que justement par solidarité, certains demandent de venir quand même. Bah, chaque année, c'est en gros plus de 600 000 visiteurs par an, c'est-à-dire comme sans l'Otargue, les organisateurs du salon, ça veut dire que c'est quasiment 1% de la population française qui défile dans les halls
c'est
du salon.
Beaucoup de personnes qui ne sont pas parisiennes, mais beaucoup de Parisiens aussi.
Oui, bien sûr.
Aime s'y rendre. Ce sera un rendez-vous particulièrement important pour les candidats aux élections municipales, bien entendu.
Oui, même si, la France, on le dit, hein, l'agriculture, elle garde encore beaucoup d'importance. Donc, vous avez aussi les fameux comices, les foires, etc., qui s'égrènent tout au long de l'année. Donc, les candidats municipaux, ils sont là aussi dans ces occasions sur leur propre terre. Là, les politiques qu'on voit défiler au salon, vous savez, ces fameuses délégations, donc, qui sont pas moins de 80-85 chaque année, accompagnés d'ailleurs de fortes délégations. C'est pour ça que la charte dont je parlais, justement, elle limitait le nombre à chaque fois de présents, enfin de gens qui entourent ces délégations à 25. Parce que vous avez, bah, bien, on l'a dit, évidemment, le président de la République, les ministres, mais également des parlementaires, des eurodéputés, les responsables des régions. Donc oui, alors, les responsables municipaux, j'allais dire, est-ce que c'est là qu'ils font campagne? Non, il faut bien sûr soigner son image, mais...
Je pensais surtout aux candidats dans les grandes métropoles françaises.
Oui, ça, vous avez raison. Mais encore une fois, ça, c'est un travail qu'ils font plutôt tout au long de l'année. Là, ce qu'on vise à ce salon, qui est bien particulier, hein, c'est assez unique, hein, un salon aussi important sur cette durée, qui est comme ça ouvert à tous, et qui est donc devenu, je crois, le premier salon en termes de renom dans le sur l'année, c'est vraiment l'image un peu nationale, quoi. C'est de marquer le coup, et donc c'est davantage là que ça se joue. Et vous l'avez dit vous-même, hein, c'est dans les têtes, il y a 2027. Donc vous allez voir, tous les candidats vont défiler.
Gabriel Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, voilà, tous les
Jordan
candidats
Bardella,
déclarés.
Qui s'était taillé un petit succès en 2024.
Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que des personnalités politiques se sont révélées lors de salon de l'agriculture.
Alors révéler, ce serait beaucoup dire, parce que c'est quand même un événement bien particulier, bien ciblé. Mais enfin, on peut y faire un faux pas. On a cité Nicolas Sarkozy, vous pouvez abîmer votre image. On a cité ceux qui sont victimes d'eux. Mais oui, c'est vrai que bah, Jordan Bardella, donc à l'époque, il y était comme président quoi, du Rassemblement National. Désormais, c'est évidemment dans la peau d'un candidat. Oui, on peut dire qu'il s'était révélé dans la mesure où il y avait reçu un bon accueil. Donc c'était il y a deux éditions. Là, qu'en sera-t-il pour celle-là? On peut penser qu'il devrait aussi avoir un certain succès. Surtout que c'est vrai que le monde paysan est extrêmement divers. Et dans la, par exemple, dans la diversité des syndicats qui le représentent, l'un d'eux, par exemple,
la coordination rurale, est plutôt proche de
ces idées-là, ouais. de l'extrême droite, d'une véritable défiance envers l'Europe, le côté souveraineté, souverainisme, même si la souveraineté alimentaire, elle est revendiquée par tous, à commencer par Emmanuel Macron. Lui, c'est une de ses obsessions, hein, la souveraineté, l'indépendance, qu'elle soit européenne et a fortiori de la France. Et pour lui, ça vaut aussi bien sur le terrain de la défense, ça, on le sait assez, militaire, mais ça vaut également, bien sûr, sur la souveraineté alimentaire. C'est stratégique. Donc finalement, les grands objectifs des politiques ne sont pas si différents, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les candidats RN, ils cultivent, c'est le cas de le dire, cette image-là, cette proximité. Et bien évidemment, on peut penser qu'il y aura un passage qui devrait illustrer cela.
Et on se souvient, Henri Vernet, hein, il y a deux ans, d'un Emmanuel Macron particulièrement hué. Et le lendemain, son Premier ministre, Gabriel Attal, qui lui a été plutôt bien accueilli. Vous le voyez sur le visage de Gabriel Attal, hein, qu'il en était particulièrement heureux. Et cela peut aussi créer des frictions entre les têtes de l'exécutif.
De toute façon, oui, un président, il n'aime jamais voir son Premier ministre être davantage flatté, davantage célébré que lui-même. Alors c'est vrai aussi que Macron, par définition, c'est lui qui va notamment sur le terrain européen. Donc c'est à lui que reviennent les décisions un peu difficiles. C'était vrai il y a deux ans, donc cette année où il était particulièrement vraiment chahuté, bousculé, c'était très physique, hein. Et ce sera peut-être vrai encore cette année, puisque là, le Mercosur a été signé, le traité a été signé par l'Union européenne, malgré l'opposition de la France. Alors, est-ce que les agriculteurs créditeront au moins Macron de s'y être opposé, puisque la France a voté contre, hein, mais simplement, l'Europe est là. Et donc, est-ce qu'on assistera un petit peu à la même dichotomie, alors non pas cette fois entre Macron et Attal, mais entre Macron et le cornu, c'est tout à fait possible. Pourquoi ? Parce qu'un Premier ministre, finalement, c'est lui qu'on envoie un peu déminer les situations. Donc, c'était le cas pour Gabriel Attal quand il était à Matignon il y a deux ans. C'est de ça que les agriculteurs lui étaient gré, d'être allé sur le terrain, d'avoir géré concrètement la crise et d'avoir mis en œuvre des décisions d'urgence. Et c'est aujourd'hui exactement le rôle d'un Sébastien Lecornu qui, là, il y a quelques jours, d'abord a adressé une lettre ouverte aux agriculteurs de France pour bien montrer à quel point l'exécutif, le pouvoir, comprend leurs difficultés, mais surtout pour y répondre avec l'annonce d'une loi d'urgence qui va être là, présentée au Parlement très vite et qui dont l'objectif est qu'elle soit votée avant l'été et qui prévoit notamment des mesures alors sur des terrains très importants pour les agriculteurs, hein, l'accès à l'eau, qui est évidemment vital pour leur travail. J'en parlais également des histoires tout simplement liées à la présence des loups, qui est parfois très dommageable pour leurs troupeaux. Évidemment, je pense là aux éleveurs d'ovins.
Et à la clé, il y a bien sûr un montant très important.
C'est ça, exactement. Il y a deux ans, c'était 500 millions. Et là, cette fois, c'est 300 millions d'euros. Donc, évidemment, il y a ce côté un peu soignant, si je puis dire, du Premier ministre qui arrive là et qui a annoncé aussi que sa ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, va entamer vraiment un tour de France de toutes les exploitations, notamment les plus touchées. Ce qui a d'ailleurs commencé à être fait, hein, parce que pour désamorcer la crise, Macron lui-même est allé sur le terrain il y a quelques semaines. Il était allé dans une exploitation bovine, une ferme bovine. Il avait d'ailleurs émis l'idée que malgré tout, malgré le problème de l'épidémie, les vaches, les célèbres vaches, hein, sans lesquelles le salon n'est pas exactement le salon d'agriculture, il avait émis la proposition, malgré tout, de les de faire figurer des races bovines et donc des vaches lors du salon. Mais ce sont les producteurs eux-mêmes qui finalement y ont renoncé parce que tout simplement ils voulaient pas prendre le risque d'une contagion supplémentaire, alors que pour l'instant, j'allais dire, la convalescence est encore fragile.
Et c'est aussi un test de popularité, bien entendu. Vous avez parlé de Sébastien Lecornu, on y reviendra, hein, ce Premier ministre. Ce sera son premier salon en tant que Premier ministre. Sur l'enjeu pour les personnalités politiques, je vous propose d'écouter le communicant Thierry Sausset. Il a travaillé avec plusieurs présidents de la République, dont Nicolas Sarkozy. Thierry Sausset.
Vous savez, quand c'est chaud, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup forcément qui se feraient acclamer, parce que bon, la vérité, c'est que quand on est en situation de crise, il faut toujours avoir un peu de courage pour aller affronter une manifestation comme celle-là. Mais c'est vrai que ce sont des endroits dans lesquels on sent bien. Si vous avez un trip agricole, voilà, je veux dire, Chirac, il pouvait y aller, il tâtait le cul des vaches, il embrassait les filles, il était comme dirait l'autre à son aise, d'abord parce que évidemment il a été longtemps un élu d'un territoire rural, mais en plus parce que voilà, c'était dans son caractère. Moi, je me souviens être allé au salon de l'agriculture avec Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. À l'époque, d'ailleurs, la situation était convenable. Il a été très bien accueilli. Il a manifesté son énergie. Mais c'était pas pareil. On sentait bien qu'il était moins à l'aise sur le thème de la ruralité qu'un homme comme Chirac.
C'est une forme d'institution, vous l'avez souligné, vous avez rappelé que Jacques Chirac était probablement le président qui s'en sortait le mieux, parce qu'il aimait ça. Si on prend tous les présidents de la Ve République, est-ce que vous pouvez nous dire lesquels sont à l'aise lors de ce salon, ou l'ont été, et lesquels le sont beaucoup moins?
J'ai trouvé François Hollande relativement à l'aise, même si, je veux dire, probablement les gens avec qui il parlait, enfin les responsables agricoles, étaient modérément convaincus. Nicolas Sarkozy a traversé ça au pas de charge avec son énergie, mais en restant très longtemps. Donc ça, c'était, je pense, convenablement passé. Emmanuel Macron, alors moi je ne l'ai pas vu au salon de l'agriculture, mais je sais, je l'ai vu dans d'autres circonstances à peu près analogues, sauf incident particulier, comme c'est arrivé d'ailleurs, il est plutôt à son aise, ou en tout cas, il fait mine d'être à son aise. Après tout, comme on est jugé sur la communication non verbale, c'est tout de même ça qui passe.
Le communicant Thierry Sausset, c'est une compétition, hein, chaque année, celui qui restera le plus longtemps.
Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il a toujours un peu cet esprit, et puis esprit de compétition, je veux dire, c'est vrai qu'il aime bien, lui, les comparaisons. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il a voulu reproduire, vous savez, le grand débat qui avait suivi la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire, voilà, il y a un forum improvisé, il défend ses positions, il répond aux questions, il essaie d'instaurer un dialogue, et c'est vrai que c'est ce qu'il a fait lors des deux dernières éditions. Donc, avec les agriculteurs, les exposants qui étaient présents, il rechigne pas au contact, il aime bien ça. Mais disons que c'est moins dans l'esprit, en effet, d'un Chirac qui était là, qui faisait le tour des stands, qui avait ses formules magiques. Hein. Chirac, un jour, il s'arrête devant un stand de vaches et il dit « ce sont pas des bovins, ce sont des chefs-d'œuvre ». Voilà, ça, il n'y a que Chirac qui peut faire ça de manière assez crédible, sans déclencher des rires, un rire général. Macron, lui, c'est davantage dans cette espèce, oui, d'explication. Là, on peut être certain qu'il y aura un gros passage sur le Mercosur. Alors voilà, pourquoi est-ce que la France a cédé? Pourquoi est-ce que Bruxelles l'emporte? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, sur les différentes mesures de simplification qui sont demandées depuis longtemps par les agriculteurs, dont certaines, d'ailleurs, trouvent des réponses. Mais enfin, tout cela, à leurs yeux, ne va pas assez vite. Bref, c'est davantage là-dessus que ça se joue. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette espèce de petit concours. Alors, il y a les concours Donc, parce que c'est ça aussi le salon de l'agriculture, hein. C'est un grand lieu de concours.
Là, ce ne sera pas le cas cette année, mais
ben,
quelle
voilà,
sera
parce
la
que
plus
c'est là
vache,
qu'on fait la plus belle vache, exactement. Le taureau le plus fantastique, l'agneau à la laine la plus douce, et que sais-je, et que sais-je. Donc ça, évidemment, dans tous les domaines. Mais il y a aussi, en effet, bien sûr, un concours entre les politiques, une façon de se jauger les uns les autres, à qui se place, se positionne voilà. bien sur la ligne de départ pour 2027.
Et pour l'anecdote, Chirac faisait mine de connaître tout le monde. D'ailleurs, partout où il allait en France, il y avait quelqu'un à côté de lui qui lui soufflait le nom des personnes qu'il allait rencontrer, et cela flattait, bien entendu, ses interlocuteurs. C'est le seul président
métier,
à faire
hein.
ça, ou alors ils le font tous ?
Oh, ils ont tous quand même leurs fiches, et ils ont tous leur tête chercheuse qui vont en repérage et qui s'efforcent justement de savoir où est-ce qu'il y aura une belle image à faire, où est-ce qu'il y aura un échange un peu valorisant. Mais il faut dire, enfin, c'est vrai qu'on en revient beaucoup à Chirac, mais je vous le dis, c'est aussi parce que chez lui, il y avait cette espèce de sincérité. Il avait été ministre de l'Agriculture, c'était un élu corrézien. Et alors, bien sûr, après, il y a eu Paris, la mairie de Paris, et puis le destin national. Mais la Corrèze, c'était son enfance, c'était ses attaches. Donc, je pense que, disons que ce degré-là, c'est pas évident aujourd'hui à retrouver sur la politique. Regardez hein, François Bayrou, par exemple, qui est allé aussi, qui s'y est allé à un certain succès. Et, avec une certaine, et pourtant, lui aussi, il a une légitimité, parce que Bayrou, c'est un éleveur. Et c'est dans son Béarn, il a ce côté-là. Ben, il n'y a pas, cette espèce de légende autour de lui qu'avait su créer un Chirac. Mais enfin, ça lui appartient vraiment.
Oui, Jacques Chirac, qui avait aussi beaucoup d'humour. Et donc, ça a marqué oui. Également les différents esprits. Alors, qui pourrait tirer son épingle du jeu cette année, pour qui ce salon représente un enjeu important? Eh bien, pour Roland Cayrol, cela pourrait bien être le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Oui, je crois que ça fait partie, en effet, du chemin vers plus de notoriété, plus de connaissances intimes de notre Premier ministre. Il a plutôt bien réussi son coup en termes de popularité et de notoriété. Il se débrouille assez bien dans les difficultés en franchissant d'une haie à l'autre les difficultés du système parlementaire compliqué que nous vivons. Bon, il n'a pas réussi à atteindre une popularité extrême. Il reste autour du quart des Français qui approuvent son action ou sa personne. Donc, en effet, ça ne peut que lui rapporter. La question est de savoir si il a envie ensuite de faire une carrière politique. Certains pensent qu'il pourrait se mettre, comme tout le monde, quand on arrive à l'hôtel de Matignon, qu'il pourrait se mettre à penser à une candidature présidentielle. Lui prétend le contraire, mais enfin, ce sont des moments comme cela dans lesquels on peut regarder si oui ou non la personne tend ou pas à avoir des projets de carrière avec, comme on dit, la marche au-dessus.
Sachant qu'ils sont nombreux à avoir prétendu le contraire et à y avoir été.
Et oui.
Et oui, et Sébastien Lecornu, il pourrait intéresser hein, les citoyens. On se souvient d'une photo de Sébastien Lecornu avec une endive dans son sac sur un marché en train de discuter avec des concitoyens. Ça peut être son truc aussi à lui.
Oui, mais de toute façon, oui, c'est vrai, cette image en effet, endive et poireau. Son
pardon,
côté, ouais, c'était un poireau. Ouais. Enfin, peu importe, c'était un légume et ça montrait un premier ministre. Ouais. Il allait lui-même acheter ses légumes au marché dans son département de l'Eure. Hein, c'est un Normand. Lui aussi, bien sûr, il cultive et il travaille cette image, mais la tentation, alors et le salon en effet est un moment de pouvoir mesurer son ancrage populaire, son image, c'est vrai que c'est un test qui est important, mais là où Roland Cayrol a raison, c'est que bien évidemment vous êtes à Matignon, vous rêvez de la marche d'après, et vous-même vous l'avez souligné dans votre relance, on a beau dire que ah non, moi jamais je jure que, bah, enfin tout le monde il y a un précédent qui est dans toutes les têtes, c'est évidemment celui d'Edouard Balladur. Et forcément, c'est quelque chose, quand vous êtes un politique de toute façon, un politique de carrière, et c'est éminemment le cas d'un Sébastien Lecornu qui vit par et pour la politique, bah forcément, vous avez des ambitions. C'est, je veux dire, c'est propre à tout politique. Donc, après, de là à dire qu'un salon de l'agriculture, enfin un passage plus exactement au salon, aurait valeur de déclencheur décisif, ça non, je crois pas. Je pense qu'il faut construire son chemin à plus long terme. Mais c'est vrai que ça peut en être, oui, une pierre.
Ouais, écoutez ce qu'en dit le communicant Thierry Sausset.
J'ai été très frappé par un sondage dont on a d'ailleurs très peu parlé sur lui, dans lequel une majorité de Français le trouvait humble, sobre, clair, honnête, ce qui évidemment est un portrait pour un politique que beaucoup de leaders politiques adoreraient avoir, parce que les Français, comme vous le savez, ont la dent dure. Et donc, je ne sais pas, comme la situation agricole est encore un peu tendue, je ne sais pas bien si dans quelles conditions il va être accueilli et entouré, mais assez normalement, sauf contestation très organisée des organisations, il devrait faire un tabac. C'est-à-dire que quelque part, avec son air de pas y toucher, il va se balader dans tout ça avec son costume et son petit pull, et il va serrer des tas de mains, il va faire des selfies, parce qu'en réalité, l'homme finit par devenir assez attachant. Et donc, je pense que tous les prétendants aux élections présidentielles doivent regarder ça de près. Il faut prendre cet homme au sérieux.
Oui, vous avez froncé les sourcils, Henri Vernet.
Non, je pensais tout simplement que, il faut rappeler aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'il arrive au salon avec une valise de 300 millions d'euros. Donc évidemment, ça aide à se faire des amis.
Est-ce que l'on peut continuer à promettre une protection nationale, justement, dans un cadre européen libéralisé, sans nourrir le ressentiment ?
Vous avez raison, ça c'est une question qui est vraiment très importante, c'est un défaut des Français, alors pas que dans cette matière agricole d'ailleurs, mais de manière générale, des dirigeants français, c'est de promettre énormément, de jouer, il ne faut pas hésiter à le dire, d'une certaine démagogie. Là en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant des années, le pouvoir et Emmanuel Macron lui-même, à plusieurs reprises, a répété, assuré, garanti que non, le traité du Mercosur en l'état ne serait pas signé, jamais la France s'y oppose. Mais surtout, l'opposition de la France serait efficace et donc barrerait la route à ce traité. Évidemment, toute la classe politique unanime a embrayé sur ce point. Rappelez-vous, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, au Parlement, qui était unanime ou quasi unanime pour barrer la route à ce traité. Donc c'est vrai, les politiques français se dressent contre quelque chose qui a été voulu par la majorité des partenaires européens. La preuve, c'est qu'il a fini par être signé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Et donc, c'est vrai qu'on a joué là avec une certaine démagogie, avec les aspirations des Français en général, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que la population a plutôt adopté le point de vue des agriculteurs et donc leur position. Et tout ça, c'était un jeu vraiment dangereux, puisque en réalité, depuis le début, on savait très bien que les choses étaient plus complexes que cela. Et la preuve de tout ça, d'ailleurs, c'est que, en son fort intérieur, même pas en son fort intérieur, le président de la République avait des déclarations là-dessus. Lui-même ne pense pas du tout, fondamentalement, que c'est un mauvais accord, parce qu'il a aussi des intérêts. Par exemple, pour la France a aussi une industrie, heureusement. Et donc, il y a des aspects dans ce traité. Ce sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles tous les autres pays, la plupart des partenaires le voulaient, qui sont plutôt favorables. Mais alors, je pense en effet notamment à l'industrie automobile, aéronautique et d'autres pans. Mais même dans le monde agricole, tous ne sont pas unanimement vent debout contre ce traité. Il faut penser par exemple notamment aux producteurs de vin, les viticulteurs. Eux, ils ont plutôt des intérêts et ils ne sont pas les seuls. Il y a encore d'autres. Ce sont vraiment, et même les céréaliers dans une certaine mesure. C'est vrai que...
Mais les syndicats puissants, eux, ont fait part de leur très forte opposition à cela. La FNSEA et la coordination rurale,
qu'ils ont bien senti parce qu'ils ont bien senti que les troupes, j'allais dire, étaient vraiment contre. Et donc, sans nuance, tout le monde y est allé à fond. Et c'est vrai que parfois, on parle de co-gestion entre les grands syndicats, notamment la FNSEA, qui est le plus puissant en France. Et donc, connivence entre eux et le pouvoir politique. C'est vrai que là, ils se sont vraiment, encouragés l'un l'autre. Ils ont fait front commun. Et voilà comment on est parti sur, encore une fois, une certaine démagogie. Parce que quand vous faites des promesses dont vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas réellement les tenir, parce que c'est très bien, la France a voté contre. Et alors ? Enfin, et alors ? Là, il faut quand même que je nuance un petit peu. C'est vrai que tout récemment, donc en janvier dernier, la présidente de la Commission a signé ce traité. Il est vrai également que dans la foulée, le Parlement européen, donc tous les eurodéputés, enfin pas tous, une majorité d'eurodéputés ont voté pour une suspension de l'application donc du traité de libre-échange, le temps qu'il soit examiné par la Cour de justice européenne. Donc c'est, tout ça, il y a une réaction. Disons que le débat n'est pas totalement plié dans la mesure où il faut ça. Mais enfin, aujourd'hui, le débat, c'est est-ce que la Commission européenne va appliquer, malgré cette procédure, va quand même appliquer l'accord là dans les mois qui viennent, ou est-ce qu'elle attendra le jugement, enfin que cette Cour de justice tranche, ce qui pourrait prendre des années. Donc tout ça n'est pas vain. Néanmoins, il y a quand même là vraiment une exagération. Par ailleurs, il faut aussi rappeler des évidences. Hein. La PAC, la fameuse PAC, la politique agricole commune, c'est là, ça reste, au bout de toutes ces années, ça reste encore la principale politique communautaire des 27 pays européens. Eh bien, qui en est la première bénéficiaire ? Ben, ce sont les Français. La France, enfin l'agriculture française, reçoit quasiment le tiers de l'argent qui est affecté, alors pour plein de domaines, hein, de l'investissement, de la transformation, du soutien aux cours, etc. Donc c'est très très diversifié. Mais en tout cas, la part principale, la première, revient à la France. Alors, pour être tout à fait honnête, il faut aussi dire que la France est le premier contributeur. Donc, en quelque sorte, elle paye et puis elle reçoit. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe n'est pas du tout que dommageable à ce secteur en France. Absolument pas.
Quelle est la puissance politique des syndicats agricoles aujourd'hui ? La FNSEA, par exemple, qui est parfois critiquée pour être trop proche des pouvoirs en place. Il y a la coordination rurale, vous avez fait part de ces liens avec la droite nationale, disons, dont le Rassemblement national. Ils représentent quoi, ces syndicats ?
Ils représentent quand même tous ensemble, hein, c'est-à-dire FNSEA, son bras, j'allais dire, dans la jeunesse de la GIA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale que vous avez citée, la confédération paysanne, beaucoup plus proche de la gauche. Tout cela, mis bout à bout, ils représentent quand même une bonne part du monde, du peuple paysan, j'allais dire. Donc il y a quand même ce poids-là. Il y a surtout, alors, ce qu'on reproche à la FNSEA, puisque vous évoquiez ce terrain-là, par rapport à beaucoup dans le monde paysan, c'est aussi cette idée que, quelque part, ce sont un peu les puissants.
Voilà.
C'est les gros.
Les gros exploitants.
Oui, mais en même temps, il faut justement souligner ça aussi quand on parle de l'Europe et de la mondialisation. Bah, tout cela, les gros, justement, ils se débrouillent très bien avec la mondialisation. Je veux dire, ils jouent parfaitement des marchés internationaux, des exportations, des importations, etc. Donc là, on n'est pas dans la crise permanente. Il ne faudrait pas non plus cultiver une image un peu misérabiliste de l'agriculture française et du monde paysan français, parce que ce n'est pas le cas. Il y a des drames, il y a d'énormes difficultés, ça c'est très clair. On rappelle souvent hein, cette terrible image d'un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en France, ce qui est évidemment dramatique et poignant. Mais c'est un monde qui est extrêmement divers, y compris ne serait-ce d'ailleurs que par les paysages, les terroirs, les formes d'agriculture hein, maintenant qui sont quand même vraiment diversifiées. C'est d'ailleurs là aussi que l'Europe, que l'Union européenne joue un rôle hein, en encourageant tel ou tel domaine, en mettant l'accent sur telle ou telle technique. Enfin voilà. Et tout cela en jouant également à la préservation, parce que quand même le grand enjeu, c'est la préservation de notre environnement, de ne pas trop dégrader le climat, etc. Et tout ça, ce sont des politiques, certes communautaires, mais dans laquelle la France joue un rôle important.
Et vous
donc
dites,
le poids des syndicats par rapport à tout ça, oui, c'est quand même, ils pèsent, ils sont écoutés, quoi qu'ils en disent dans les moments de colère. Et pourquoi ? Aussi parce que justement, les politiques, ils savent très bien à quel point les symboles sont importants. Et par exemple, alors c'est vrai que la colère paysanne, quand elle s'exprime, elle fait mal. Hein. Ils peuvent bloquer le pays
en tout cas,
avec les tracteurs, ça se voit. C'est assez, c'est spectaculaire. C'est parfois violent, hein, il faut bien le dire. Un de leurs bras de fer, c'est par exemple souvent contre la grande distribution, contre les grandes surfaces. Combien de fois a-t-on vu des dépôts de lisier sur les toits, par exemple, de grandes surfaces. Je crois qu'une fois, il y en a même un qui s'est écroulé. Je crois qu'il s'agissait d'un Leclerc. Enfin, voilà, ce bras de fer, il est permanent. Et cette colère paysanne, spontanément, encore une fois, les Français, l'opinion a plutôt tendance à y adhérer. Donc c'est de là, oui, que vient un poids bien réel, une influence bien réelle.
Et on se souvient tout récemment des tracteurs juste devant l'Assemblée nationale avec des mottes de paille. Mais là, l'ambiance était plutôt bon enfant. Et puis on voyait les députés qui allaient rencontrer les agriculteurs. Et on voyait qu'ils étaient un petit peu en campagne aussi, les députés. Ils allaient dans le sens des agriculteurs lorsqu'ils discutaient avec eux. C'est en tous les cas ce que l'on pouvait percevoir sur place. Ce salon de l'agriculture, l'impact pour les personnalités politiques, est-ce une exception française ?
Oui, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, c'est quand même bien particulier. Bah, déjà, il faut toujours se souvenir de ça. Hein, la France, c'est quand même un pays qui est extrêmement centralisé. C'est-à-dire que dans d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, qui sont aussi des puissances agricoles. Alors, la France est la première puissance agricole européenne. Ça, ça fait aussi la différence. Hein. Mais d'autres grands pays, la Pologne, en tout cas pour ceux qui nous sont le plus proches, l'Allemagne ou l'Italie, ont ces fortes traditions. Mais disons que c'est beaucoup plus dilué parce que ce sont des pays qui sont quand même très décentralisés, où la région pèse énormément, où peut-être que aussi les grands secteurs d'activité sont plus équilibrés. Cette espèce de prééminence de l'image, de l'influence, de l'impact, de tout ce qui correspond à la France paysanne et le plus fort sur la politique, c'est notre pays.
Et c'est aussi pour ça que l'image du président lointain s'est terminée, c'est ce que dit Thierry Sausset.
Alors une chose est sûre, c'est que vous ne reviendrez plus jamais sur l'image du président lointain, distant, à l'abri des médias, ne mouillant pas sa chemise, à la Mitterrand, un peu à la Chirac aussi d'ailleurs pendant cette période-là. À l'époque des réseaux sociaux, des chaînes info et de TikTok. C'est-à-dire qu'au fond, par définition, même s'il faut résister à ça, même si on le fait, comme vous le disiez tout à l'heure, en partie aujourd'hui, pour ne pas être quelque part l'objet seulement des médias ou des réseaux sociaux, vous êtes obligé aujourd'hui d'être une force de réaction rapide. De toute façon, l'État est quasi en permanence en crise. Il y en a toujours une, les agriculteurs, les médecins, les pompiers, les policiers. Et donc, au fond, on est devenu dans une société par définition plus ouverte, même si, encore une fois, le président ne doit pas non plus devenir un produit de consommation courante.
Voilà, le président ne doit pas devenir un produit de consommation courante. On retiendra ces mots du communicant Thierry Sausset. Merci à lui pour sa participation à cette émission, à cet épisode de Coulisses politiques. Merci également au politologue Roland Kayrol. Merci à vous, Henri Vernet.
Merci.
Journaliste, chroniqueur notamment à France Info. Vous êtes aussi écrivain. Fin de cette émission Coulisses politiques. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet, présenté par Nadia Bencher.